un petit peu de parole de Dieu. Puis il y a quelques affamés. Et si vous êtes affamés de Dieu, vous allez être nourris ce matin. Et en fait, il y en a certains aussi peut-être, parce que vous avez beaucoup de choses dans la tête, vous risquez de manquer ce moment. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour que Dieu... J'ai entendu les prières ce matin, j'ai entendu quelques prières qui sont élevées et ça me touchait. Moi, ça me met de la pression en tant que celui qui doit apporter le pain de Dieu pour vous ce matin. Mais j'ai entendu quelques prières de gens qui avaient faim. Est-ce que tu as faim de Dieu? Un culte, un temps de louange, un temps de méditation où des hommes et des femmes ont faim de Dieu. C'est énorme ce qui vient derrière. Notre Père, nous voulons nous placer devant toi pour que cette faim spirituelle, cette soif de Dieu descende dans ce lieu et que lorsque l'on prenne ta parole, la Bible, on ne lise pas un livre, on lise une parole de vie pour nous en cette matinée. Seigneur, lorsque je vais plonger mes regards, que mes paroles soient censurées si elles ne viennent pas de toi. Je voudrais que le Saint-Esprit soit non pas celui qui est le copilote, mais qui soit le pilote de ce moment. Viens dans cet instant que l'on vive un moment de réveil spirituel avec toi. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Il y a quelques semaines, on a travaillé sur un personnage extraordinaire qui est dans le livre des juges où chacun faisait ce qui lui semblait bon, ils n'arrivaient pas à gérer la liberté et ils étaient en face de tentations terribles. Et on va lire ensemble le livre de Jacques, juste un verset qui va s'afficher sur vos écrans, un seul verset, facile à retenir. Je ne sais pas comment vous avez vécu le livre des juges, mais moi je l'ai mal vécu parce que ça fait tellement de peine de voir des hommes et des femmes qui ont tellement de potentiel et qui gâchent. Ah, c'est terrible. Alors quand je lis le verset 12 du premier chapitre de Jacques, je lis « Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Vous ne dites pas « Amen » parce que vous êtes une femme et vous croyez que le verset ne s'adresse pas à vous, c'est ça? Je vous redonne une chance alors. « Heureux l'homme, heureux la femme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, elle recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. » Vous le croyez ou pas? Non mais je sais aussi pourquoi certains, des fois, n'osent pas dire « Amen » à cela. Parce que vous regardez votre vie, le nombre d'échecs derrière et vous dites « Ouh, est-ce que j'aurai le droit à la couronne ?» Alors je regarde les livres des juges et je vois des Samson, je vois des Jephté. Je vois des personnes comme Gédéon qui n'ont pas tenu face à la tentation. Et je me dis que si eux n'ont pas tenu, ouh, comment je vais faire moi? Alors j'ai cherché, vous connaissez ce chant qui dit j'ai cherché, personne. J'ai fait la Genèse, j'ai fait Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, 1 de Samuel, 1 de Roi, 1 de Chronique, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, mais vous les faites tous comme ça. Vous dites mais j'ai cherché. Et tout d'un coup, dans le livre de Matthieu, je vois un homme qui a été tenté par le diable après 40 jours de jeûne. Et ça me rappelle tellement les histoires que j'ai vues avant et je me dis comment va faire cet homme. Et j'apprends que cet homme a réussi à vaincre la tentation. Son nom est Jésus. Alors on doit y aller. On doit essayer de comprendre pourquoi. Parce que Jésus dit... que le même esprit qui habite à Christ est en nous aujourd'hui. Alors, après avoir analysé ce que les autres ont fait et leurs échecs, on va essayer de comprendre les solutions concrètes pour vaincre la tentation, parce que c'est possible. Parce que c'est possible. C'est possible. Alors je vais essayer d'être le plus pédagogique ce matin en sachant que toute pédagogie est inutile si le Saint-Esprit n'est pas derrière. On va essayer de comprendre le sens de la tentation, le pourquoi. Ensuite, on va essayer de comprendre les différentes sortes, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le diable a un jeu de cartes de la tentation dans lequel il n'en a que 3 cartes. Et on verra ensemble quelles sont les tentations pour que tu puisses bien les voir venir. Et enfin, on terminera avec le plus important. Les secrets de Jésus pour gagner. Comment il a pu résister, lui? Alors, premier point, on reste dans le livre de Jacques, on va prendre ensemble le verset 12 et on va relire ensemble ce qui est inscrit derrière. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors, vous êtes avec moi là? Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. C'est le verset 14. Le verset 15. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni ombre dû à des variations. Beaucoup de problèmes chez les chrétiens sont liés au fait qu'on confond la tentation et le péché. Vous êtes en train de lire votre Bible, tranquillement, sur votre iPad, là dans le métro. Vous êtes avec Dieu, vous vivez un moment tout simple, vous avez vos écouteurs, vos baladeurs, peut-être sur les, votre baladeur sur les oreilles, vous êtes en train d'écouter un CD de louange. Vous sortez du métro, les portes ouvrent, en face de vous, vous avez une femme à moitié nue sur un écran géant. Alors là, vous êtes déconnecté de la Bible d'un coup. Hein. Très, très efficace. Vous êtes bien avec Dieu, vous sortez de votre chambre, vous avez eu un temps spirituel. Vous arrivez vers votre conjoint pour partager ce moment, ce rendez-vous que vous avez eu avec Dieu, pour partager la joie que c'était. Et là, votre mari, vous voyez que encore une fois, il n'a pas fait ce que vous avez, si vous avez promis. Et là, vous êtes énervé, vous dites « c'est pas possible !» En quelques instants, c'est de la colère qui remplace la paix que Dieu avait mis dans mon cœur. Et la tentation de s'énerver et de vider son sac est là et pointe dans votre cœur. Il y a plein de tentations. Il y a la colère, il y a la jalousie. Vous les connaissez tellement bien, j'ai presque pas envie de vous les dire. Toutes les addictions. C'est comme un bête, un chrétien qui essaye de s'en sortir avec quelque chose qui brûle aussi vite qu'une cigarette. Pourquoi ça te gâche la vie comme ça? Vous savez que le manque de respect envers les parents, ça fait partie des péchés. L'envie, le fait de vouloir ce que l'autre a. Alors regardez bien, je vais, comme je dis tout à l'heure, soyons pédagogiques. On va prendre les versets un par un et vous allez faire la différence vous-même entre qu'est-ce qu'est la tentation et qu'est-ce qu'est le péché. Le verset 14 nous dit « Lorsque nous sommes tentés, ce sont nos mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et qui nous séduisent. » Voilà la tentation. La tentation, c'est l'étape 1, c'est le verset 14. La tentation, c'est lorsqu'il y a une pulsion, quelque chose à l'intérieur, qui est un terrible manque. C'est lié à un besoin insatisfait, quelque chose que tu as dans ton cœur, qui t'attire et qui te séduit. Mais jusque-là, il n'y a pas de mal. Les portes du métro s'ouvrent, tu vois cette femme à moitié nue, mais ce n'est pas toi, Camille, l'affiche, c'est Deco. Il y a une entreprise qui a été payée pour mettre cette affiche en face de toi. Lorsque tu vis une situation où au travail, tu es critiqué par ta voisine dans le dos, juste ce qui te tue, au moment de la pause café, elle est tout le temps là à te parler sur ton dos et t'en peux plus. Et là, tu as juste la tentation de lui régler son compte une fois pour toutes. Et c'est normal. Mais à un moment, tu te dis, wouh, ça brûle, ça monte à l'intérieur. Mais jusque-là, tu as gardé ta langue. Sauf que le verset nous dit, verset 15, puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Dites-moi quand même, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'adultes dans cette salle, mais vous savez comment on fait un enfant? Il faut être deux. C'est étonnant que le terme qui soit utilisé, ça soit le terme conçoit et donne naissance au péché. Mais alors comment ça se fait qu'on passe de la tentation au péché? Il faut être deux. J'ai dit, mais c'est qui l'autre alors? Est-ce que vous me suivez ce matin? Dans le sens que mon mauvais désir, cette image qui m'amène vers la pornographie, cette colère qui monte dans mon cœur, cette jalousie envers l'autre qui a ce que j'ai pas, comment ça se fait que je passe de la tentation au péché? Eh bien, c'est que mon mauvais désir flirte avec quelque chose d'autre. C'est ma volonté. Vous savez que vous êtes des hommes libres, des femmes libres. Et il y a un moment où c'est vous qui avez la clé de votre cœur. Et pour qu'il y ait un bébé qui s'appelle le péché, il faut que le mauvais désir qui est en vous puisse se rapprocher de votre volonté et que vous dites « Ok, j'accepte ». Il y a un moment où c'est toi qui cliques. Tu comprends ce que je veux dire? Et il y a l'image, tu ne l'as pas choisie. La première image, tu ne l'as pas choisie, c'est de la tentation. Mais la deuxième image, c'est toi qui vas la chercher. Et ça devient du péché. Parce qu'il y a un moment où le mauvais désir s'associe avec ta propre volonté, ce libre arbitre, cette conscience que Dieu t'a donnée, et les deux se mettent d'accord et donnent naissance à un péché. C'est ça le péché. Le péché, c'est un acte volontaire où je me dis, ok, je cède à ce mauvais désir. Il faut être deux pour faire un péché. Le mauvais désir plus ta volonté. Alors je vois le verset 15, il nous dit, le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Oh, je bénis Dieu de ce que, à chaque fois que je commets un péché, je ne suis pas immédiatement détruit par le ciel. Est-ce que alors que tu as fini un culte, que tu étais bien ce matin-là, que tu rentres le soir et que tu es seul dans ton appartement et que tu vas juste allumer cette cigarette, est-ce que tu as perdu ton salut? Alors que tu as été dans un moment de louange et que tu es devant ton écran, que tu as enseigné aux autres à être un modèle devant Dieu, être un homme exemplaire, comme j'ai entendu dans la prière, tout d'un coup tu cliques sur Internet, est-ce que tu as perdu ton salut? Est-ce que tu es mort spirituellement? Là, ce texte, il t'explique exactement ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que le péché, plus quelque chose, va donner naissance à la mort. Mais encore une fois, il faut être deux. Le péché va s'associer à quoi pour donner la mort? Oh, je sais que je vous fais réfléchir ce matin. Qu'est-ce qui va faire que le péché va engendrer la mort? Qui est l'autre dans cette histoire de bébé? C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Et c'est le temps qui passe. Pourquoi? Je vois dans la Bible des hommes et des femmes qui commettent un péché, mais Dieu est toujours avec eux et Dieu est toujours en eux. Parce que Dieu fait grâce. Et c'est pour ça que vous pouvez démarrer avec Dieu, vivre un temps spirituel avec Dieu, tout d'un coup tomber. Et le Saint-Esprit ne se retire pas immédiatement de vous. Il vous laisse un temps. Il vous laisse un temps comme il laissait à Nathan. Il y a eu un délai avant que Nathan aille voir David. Il y a eu un délai avant que Saül perde le Saint-Esprit qui était en lui. Pourquoi? Parce que Dieu est grâce et Dieu dit... Comme un sablier, je t'en supplie, tu es en situation de péché. Vous avez ce buzzer, ce gyrophare spirituel qui s'allume lorsque votre alarme commence à sonner. Ce que tu es en train de faire n'est pas à la hauteur de ton appel, Yvan. Ce que tu es en train de vivre n'est pas à la hauteur de ton appel, ma fille. Et Dieu te dit, je vis pas bien ce que tu es en train de faire. Parce qu'il y a eu déjà ta volonté qui a donné naissance au péché en s'associant à la tentation. Et là, ça fait plusieurs temps que tu es dedans et que tu t'en sors pas. Et que tu ne veux pas t'en sortir. Mais le temps de la grâce, le sablier, je ne sais pas quelle image pourrait vous donner d'autre si ce n'est qu'un sablier dans le ciel. Et c'est le sablier des grains de la grâce de Dieu. Et Dieu dit, encore un temps avant que ma fille ne perde son salut. Encore un temps. Dieu, ne lui retire pas tout de suite ton Esprit Saint. Laisse-moi. Le rôle du Saint-Esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit, il a juste un délai pour te convaincre de péché, de justice et de jugement, pour que le temps ne te garde pas dans le péché et ne t'amène pas vers la mort. Ce matin, je conclue sur ce point, mais si tu entends la voix de Dieu et que tu es en situation de péché, tu es en train de jouer avec le feu, il y a le sablier du temps divin. Attention, attention. Tu es dans la grâce. Joue pas avec le feu. Saül a joué avec le feu trop longtemps. Samson a joué avec le feu trop longtemps. Allez, je passe, sinon je ne vais pas réussir à finir. On peut voir ensemble Matthieu 4. On va voir deux textes ce matin. On va voir Matthieu 4 et Luc 4. Juste Matthieu 4, le verset premier. Matthieu 4, verset premier nous dit... Alors le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Ça veut dire quoi? Regardez la différence. Ne confondez pas Dieu et le diable. C'est pour ça que l'apôtre Jacques, quand il parle, il dit « Attention, Dieu n'est pas celui qui tente. » Par contre, Dieu met à l'épreuve. Est-ce que tu comprends que comme un père, Dieu vient et il essaye d'éduquer ta foi?
et pour que ta foi grandisse et pour que ton caractère de femme de Dieu se développe et pour que ton caractère d'homme de Dieu se développe, Dieu est obligé de te bouger. Et des fois, ça te fait mal. T'es éprouvé comme au creuset. Tu vis l'épreuve. Dieu permet l'épreuve dans ma vie. Mais attention, c'est pour construire, alors que la tentation a pour but de détruire ta foi. Confonds pas les deux. Dieu permet que tu sois éprouvé. Le diable, lui, veut te tenter. Qu'est-ce qui différencie les deux? La finalité. Il y en a un, c'est pour te rendre meilleur. L'autre, c'est pour te briser ta foi. Matthieu 4, verset 2. Quel est le moment le pire pour être tenté? Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Waouh! Est-ce que vous avez déjà fait 40 jours de jeûne et de prière? Je parle à ceux qui ont vécu un temps de sommet spirituel avec Dieu. Est-ce que ça vous est... Est-ce que quelqu'un a vécu ça déjà? Peut-être pas 40 jours, mais est-ce que tu as vécu au moins un dimanche matin où l'onction était tellement présente, peut-être un soir dans ta chambre seule avec ta Bible, où Dieu était là dans la pièce, tu pouvais dire « Wouh ! Aujourd'hui, c'est pas comme avant. Je sais qu'il est là, mais aujourd'hui, je le sens plus. Je vis un moment fort, tellement fort avec Dieu. » C'est dans tes moments de sommet spirituel que tu ne seras pas attaqué. Il va juste attendre le 41e jour. Le moment où, après un excellent temps avec Dieu, t'es fatigué et t'as faim. Le diable va pas t'attaquer quand t'es sur la montagne, ou t'es dans la tente à côté de la montagne de la Transfiguration où tu vas planter tes tentes. Il sait que t'es inattaquable, t'es dans la présence de Dieu, t'es bien. Il va juste attendre le moment où tu vas devoir redescendre. T'as tellement pris soin de ta famille, t'as prié pour tes enfants, tu as essayé de bien faire les choses, t'as donné ton service ce dimanche-là, t'as été impeccable, t'as fait un sourire à tout le monde, même aux gens qui ne méritaient pas un sourire. T'as juste donné plus que ce que t'avais même. Tu rentres le soir chez toi, tu t'assois dans ton canapé, tu dis « Seigneur, j'ai le droit à une pause, non ?» Et là, c'est là que t'es en danger. Tous les leaders, toutes les personnes qui font quelque chose pour Dieu ne sont pas en danger le dimanche matin. Ils sont en sécurité, ils sont dans la présence de Dieu et ils vivent leurs 40 jours de jeûne et prière. Ils sont en danger le dimanche soir. Si tu as fait tout ce que tu as fait dans ta journée, je vais parler à une femme là peut-être. Tu as pris sur toi le matin pour être bien au travail. Tu as pris sur toi pour arriver à l'heure au travail. Tu as pris sur toi pour être poli avec les personnes qui ne le méritaient pas. Tu as supporté avec patience les critiques de ta voisine. T'as fait plus que ce que ton patron t'avait demandé. Tu rentres le soir, t'as préparé le goûter à tes enfants qui râlaient. T'as tenu même quand ton mari s'est avachi dans le canapé et qu'il a rien dit. Mais à 10h32, au moment où tu t'apprêtes à dormir, que t'as encore quelqu'un qui te déçoit dans ta maison, là t'explose. Parce que c'est au moment où t'allais te relâcher. Au moment où t'allais dire c'est bon. Et là, tu vas zapper ton temps avec Dieu, tu ne vas pas lire ta Bible, tu vas te coucher, tu vas être en colère. En fait, je vais plus loin et je voudrais te dire que le diable est très à l'écoute de toi. Et il est très à l'écoute de tes besoins. De quoi Jésus a besoin après 40 jours de jeûne et prière? Il a besoin de manger. Et c'est naturel. Et c'est une loi même de Dieu. On est obligé de descendre de la montagne un jour. On est obligé de revenir à des besoins tout simples. Moi, j'aimerais qu'on puisse vivre éternellement dans la gloire, vivre un sixième perpétuel pour ceux qui sont à la sixième, un page perpétuel, un dimanche matin perpétuel. Ça s'appelle la gloire, ça s'appelle le ciel, ça. Mais on est sur la terre, on doit rentrer, on doit vivre nos quotidiens. Et il y a un moment où on a faim, on a des besoins. Et le diable va se glisser dans ton besoin. Parce que ton besoin, c'est quelque chose de négatif, c'est un moins que tu as dans ta vie, c'est un besoin, c'est « j'ai faim ». Vous savez, je pense, une des tentations classiques que l'on juge quand ça ne nous arrive pas, c'est l'adultère. Et puis j'ai réfléchi à cela, Parce que je me suis dit, mais comment des personnes et des femmes ou des hommes aussi proches de Dieu des fois peuvent être amenés dans le tourbillon et à faire n'importe quoi alors qu'ils savent tout. T'as prêché là-dessus, t'as prié là-dessus, t'as aidé ta voisine là-dessus, tu l'as conseillé matrimonialement quand elle allait quitter son conjoint. Tu lui as dit, mais fais pas n'importe quoi, ma fille. T'as été la meilleure pour trouver les mots pour les autres, mais quand c'est toi, t'es dans le truc, t'es dans le tourbillon, et ça tourne tellement, t'arrives plus à réfléchir. Et c'est quoi le problème? Si c'était qu'un problème des hommes, si l'adultère n'était qu'un problème des hommes, ça serait un problème de sexe, ça serait un problème de besoin peut-être. Mais je me dis, mais pour que les femmes commettent un adultère? Il y en a, elles ne vont pas commettre un adultère pour le sexe. Hein. Ce n'est pas qu'elles sont en manque de sexe. Alors pourquoi allons-elles être avec cet homme-là? Parce que c'est quelqu'un qui les fait se sentir vivante. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que du pain lorsque tu n'as pas mangé? Du pain, c'est la vie. Et en fait, le diable va se mettre dans les besoins qui font te sentir vivante. Toi, en tant qu'homme, tu as l'impression que tu comptes plus. Tu comptes plus. Tu es juste un de plus, tu ne sers à rien. Et quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un te dit « Depuis que je t'ai rencontré, ma vie a pris du sens. » C'est la vie, ça. Et tout d'un coup, tu es prêt à envoyer tous tes principes à la poubelle pour juste un instant de vie. Pour vivre, pour ressentir que tu es vivant. C'est pareil pour la colère, c'est pareil pour la jalousie, c'est des choses qui font que tu es vivant. Parce que toi qui ne connais pas assez d'émotions, tu as une vie plate tout d'un coup, il y a un truc qui brûle à l'intérieur, qui te fait te sentir vivant. Et c'est là-dessus que le diable va jouer avec Jésus. Le diable sait ce dont tu as besoin. C'est étonnant qu'il y ait ce verset qui dit « Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. » Et il y a un combat perpétuel dans le ciel, comme quel est le premier qui va nourrir ton besoin et vers qui tu vas aller pour remplir ce besoin. Il y a combien de tentations? Tout à l'heure, je vous ai dit 3. Alors, on va prendre ensemble, dans la version seconde, juste le chapitre 1er le chapitre 2, de la lettre de Jean, un verset. Ils sont géniaux à la vidéo, ils vont me trouver ça. Ils sont géniaux, géniaux. Quand les GIs veulent arriver dans un pays pour lutter, ils essayent d'analyser quelles sont les armes de l'ennemi. Vous êtes d'accord avec moi? C'était le problème des Français. En 1939, on n'a pas été bon là-dessus. Il n'y a pas un qui a été assez malin pour comprendre que Hitler avait beaucoup plus de chars que nous. Les gars, ils sont allés, ils ont vu leurs forces, ils n'ont même pas calculé quelles sont les forces de l'ennemi. C'est indispensable, quand tu fais une guerre, de faire un travail de renseignement d'abord. Quelles sont les armes auxquelles je vais avoir à me confronter? Il y en a 3, il n'y en a pas 10. Le catalogue de la redoute des armes du diable, il n'y a que 3 pages. Par contre, c'est des pages solides, mes amis. Mais il n'a que 3 pages. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, première page, la convoitise des yeux, deuxième page, et l'orgueil de la vie, troisième page, ne vient point du Père, mais vient du monde. Prenez Luc 4, s'il vous plaît. Luc 4, regardez ça. Y a-t-il quelqu'un qui pense que la Bible est la parole de Dieu? Moi, je le crois. Est-ce que je crois que la Bible est inspirée et que tout est utile? Tout est utile. Et que tout correspond, tout correspond. Et quand Jean écrit ça, Jésus l'a vécu. Luc 4, on lit ensemble. Vous l'avez trouvé? Verset 3. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit dans l'Écriture, l'homme ne vivra pas n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, la version que vous connaissez peut-être. Le diable l'entraîna sur une hauteur et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle
ainsi que les richesses et la gloire de ses royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains. Je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Deux cartes. On lit la troisième carte. Troisième carte. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici. Lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges de veiller sur toi. Ou encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Et Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne chercheras pas à forcer la main du Seigneur ton Dieu. » Le diable eut achevé de se soumettre à toutes sortes de tentations et il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Vous vous rappelez le verset de Jean ? Car il y a trois choses dans ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la... Je le répète beaucoup à mes élèves, ça les aide pour préparer le bac. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Trois cartes. Le diable dit, on s'intéresse à... Regarde dans ce texte ce que le diable vient voir auprès de Jésus. Il lui dit, alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à ces pierres de se changer en pain. Et Jésus, t'as pas mangé ? Tu sens pas ton estomac qui gargouille là ? Il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de ta chair qui dit, ah, tu prendrais bien un morceau de pain, non ? Et si tu pries, ben Dieu y pourvoira tous tes besoins. Ouh, c'est tordu, ça. C'est une pulsion intérieure, ça monte de très loin. Le diable vient et il va appuyer sur les boutons de choses dont tu as manqué depuis longtemps. Ça fait combien de jours que Jésus n'a pas mangé ? 40. Depuis combien de jours tu as ce besoin-là qui est vide, qui n'est pas satisfait ? Depuis combien de jours tu manques de reconnaissance ? Depuis combien de jours on t'a pas parlé pour te dire combien tu étais important ? Depuis combien de jours on n'est pas venu t'aider à faire quelque chose contre lequel tu te bats chaque jour ? Depuis combien de jours ton conjoint n'est pas venu concrètement te donner un coup de main ? Depuis combien de jours ? 40 jours. Peut-être pour certains ça fait 40 ans que tu n'as pas reçu d'amour. 40 ans. Jamais eu maman à tes côtés. Jamais eu une maman pour te prendre dans ses 40 jours. Et depuis ce temps-là, 40 ans, tu as juste un besoin énorme. Et ça vient de votre tripe. Si ça vient de vos tripes, pardonnez-moi l'expression, c'est la chair, quoi. Ça vient de l'intérieur, pulsion de l'intérieur. Deuxième, le diable entraîna sur une hauteur et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai la domination universelle, etc. C'est quoi ça ? Convoitise des yeux. Convoitise des yeux. Convoitise des yeux. Convoitise des yeux, c'est pas ce qui vient de l'intérieur, c'est ce qui vient de l'extérieur. Il y a un moment où tu as certaines pulsions, on a vu convoitise de la chair qui monte de l'intérieur, mais il y a des convoitises qui viennent de l'extérieur. Regarde la femme du voisin, elle est plus belle que la tienne, non ? Comment ça se fait que l'autre a ce job dont tu rêves, alors qu'il fait moins que toi, qu'il est moins sérieux que toi, qu'il fait moins d'efforts que toi, et c'est à lui que le patron a donné ce job. C'est pas normal. Là, tu sens la jalousie qui vient par comparaison. Donc en fait, c'est parce que tu as vu l'autre que ça crée chez toi. En fait, le diable, là, il utilise non pas un besoin intérieur, il va essayer de te mettre des spots en face de toi pour t'attirer de l'extérieur. Moi, je sais que si j'étais sur une île déserte, mets-toi dans la place sur une île déserte. Oh, madame, vous plaignez de votre conjoint. Vous avez peut-être raison d'ailleurs, mais bon. Mais pourquoi vous vous plaignez ? Parce que quand tu vois ta voisine qui vient de fréquenter son amant depuis 3 semaines et que tous les matins, elle vient pimpante au boulot en disant « Tu sais pas quoi, mon chéri d'amour, il m'a encore offert des fleurs. » Et toi, tu dis « Mais moi, ça fait 30 ans que je suis Gugus, là, 29 ans sans fleurs. » Tu dis « C'est pas juste. » L'autre, en 3 semaines, elle a plus d'amour que moi, j'ai eu en 30 ans. Sauf que, mets-toi sur une île déserte maintenant, avec ce Gugus que tu supportes depuis 30 ans. Si tu n'avais pas la comparaison, chaque jour, il t'apporterait les noix de coco, tu dirais « Ok,
Ah, il ne te ferait peut-être pas rêver, mais personne. Vous comprenez l'idée? La pub, le diable est le champion de la pub.
Il vous manque les clampes.
Vous avez déjà une télé de 56 cm. Mais ce plasma, ce nouvel écran LCD, 3 dimensions, vous manque. Ah oui? C'est bien, c'est fort. Convoitise des yeux, c'est juste la comparaison des autres. Ouh là, je suis en retard. Tout ce que je n'ai pas, ou tout ce que je n'ai plus. Ou tout ce que je n'ai plus, parce que quand je pense à Jésus, Jésus, il n'avait pas déjà eu tous ces royaumes de gloire. Si, il vient de palais d'ivoire là-haut. Lorsqu'il était dans le ciel, il y avait des serviteurs, il avait des anges à son service, il vivait dans la gloire, dans les palaces. Et lorsqu'il arrive sur la terre, une étable. Est-ce que vous trouvez que c'est au rang du Fils de Dieu, ça? Non. Non. Est-ce que c'est à la hauteur du Fils de Dieu? Non. Est-ce que ça serait normal que Jésus ait tous les royaumes? Oui. Est-ce qu'il le mérite? Oui. Tu es venu du pays, tu étais une princesse là-bas, tu étais un prince là-bas. De redémarrer à zéro ici, c'est horrible. Parce que tu compares avec ce que tu étais avant. Et tu dis, mais avant, j'avais un job. Avant, j'étais une madame au pays. Les gens me disaient, vous, avec respect. Ici, je suis balayeur, je suis rien. Et du coup, tu as un immense besoin de dire, mais tout ça, je le méritais avant. Et Jésus, je pense à cet instinct-là, lorsqu'il est en face de cette tentation du diable, il y a ce... Mais Dieu voulait-il pas des palais de gloire pour moi? Est-ce que Dieu voulait pas ça? Si! Le diable appuie sur toutes les touches. Il fait du piano sur tes besoins. Pour terminer, vous vous rappelez le dernier? Le dernier des aspects. L'orgueil de la vie. Eh bien, on lit la suite. Le diable conduisit. Même en hébreu, c'est... En grec, c'est... Le prend avec lui. T'es quelqu'un d'important, Jésus. Tu comptes pour moi. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem. C'est l'endroit que Jésus préfère. C'est là d'ailleurs où il va revenir sur le mont des Oliviers. Il le plaça tout en haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges de veiller sur toi. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Bah, c'est super biblique, ça. Bah, il n'y a rien de mal. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux que Jésus est le souverain sacrificateur. Le temple, en haut, bah, c'est exactement ça. Allez, en plus c'est la foi, hein, vous avez vu, c'est la foi, en plus c'est formidable. La foi, c'est faire un pas dans le vide. Le pasteur Yvan, il a déjà prêché que la foi, des fois, c'est ah, je saute comme Harrison Ford dans la dernière croisade, je saute et je tombe sur juste la foi. Mais sauf que là, pourquoi ça serait pas bien alors? Jacques dit, vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits, ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas. Car vous demandez avec de mauvais motifs. Avec de mauvais motifs. Et en fait, le diable, il mime la foi, là. C'est tout comme la foi. Ça ressemble à la foi. Il y a bien une espérance, il y a bien quelque chose. Sauf que ce n'est pas quelque chose qui servirait à la gloire de Dieu à ce moment-là. Ce n'est pas un besoin qui vient de Dieu. Là, Jésus, lorsqu'il ferait ça, il ferait juste du spectacle. Et il montrerait à tous qu'il est le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour lui. Est-ce que tu te rends compte que le diable veut te pousser dans l'orgueil de la vie à construire des choses dans ta vie pour que tu puisses dire « Waouh, j'ai construit cette entreprise par mes propres mains. J'ai élevé 4 gosses et tous ont eu le bac. Gloire à moi !» Mais il m'avait quitté pourtant cet homme-là. Mais j'ai toute seule, j'ai élevé les deux filles, pasteur. Ouais, mais c'est bien en plus. Vous voyez, c'est même pas mal. Moi, je suis là, je serais prêt à dire amen à ça. Sauf que si derrière, le seul objectif, quand tu sers Dieu, quand tu fais quelque chose pour Dieu, c'est de prendre un petit impôt sur le ciel, il y a un problème. C'est légitime, mais c'est un impôt. Et Dieu n'était pas là-dedans. Est-ce qu'il vous reste un peu d'énergie pour regarder une petite vidéo?
C'est vraiment une synthèse. Regardez ça. C'est tout simple. Hein. On va lancer une bille sur une table. Par en dessous, on avait mis quelque chose qui a tiré la bille. Pensez à la tentation, là. Hein. Troisième. C'est bête, une bille. Hein. Et on peut en faire 10 comme ça. Le diable, il t'attire. Vous n'avez pas aimé la physique au collège, d'accord? Je suis désolé pour vous. Pourtant, la physique, c'est quand même inventé par Dieu. Hein. C'est une histoire de plus, de moins, d'ion et tout ça. Et sous la bille, sous la première bille, il y a un aimant. Et la bille, elle se dit, oh cool! Tant qu'elle ne roule pas, elle n'est pas attirée. Mais vous voyez, c'est l'envie de vivre, la bille. Et se déplacer un petit peu. Elle part et tout d'un coup, boum, sur l'aimant. Puis vous envoyez une deuxième bille. Qui se dit, la première bille, elle est vraiment nulle. Hein. Moi, je vais rouler juste à côté. Je vais dire coucou l'aimant et je ne vais pas arriver. Puis vous arrivez, boum, elle se colle dessus. Et la troisième, et la quatrième, et la dixième bille. On est des billes, mes amis. On est des billes. Dans la Bible, il y a plein d'histoires de gens qui se sont fait arnaquer par la tentation. À chaque fois, ils avaient un besoin, juste un moins, un énorme moins dans leur vie. Et le diable dit, moi je suis un petit plus pour ta vie. Est-ce que tu veux la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie? Je suis ça pour toi. Je peux répondre à ton besoin. Mieux que Dieu répond à tes besoins. Viens à moi. Regarde, je vais prendre ton moins et je vais te donner mon plus. Tu as besoin de pain, Jésus. Moi, je vais te donner du pain. Tu as besoin de royaume, Jésus. Moi, je te donnerai un royaume. Jésus, j'ai ce qu'il te faut dans mon catalogue. Alors, la physique, c'est simple. Hein. Vous mettez un moins, vous mettez un plus. Les opposés, eh, ça marche tout le temps. C'est juste une loi tout le temps vraie. Vous mettez un moins, vous mettez un plus, et ça s'attire. Et je me dis, mais Dieu, le Saint-Esprit veut travailler en moi. Comment peut le faire le Saint-Esprit pour éviter que le moins qui est en moi, ce besoin qui fait que l'apôtre Paul dit, mais qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Je sais qu'il ne faut pas le faire et je fonce dedans à chaque fois. Vous l'avez lu ce texte, non? Ça fait du bien de savoir que l'apôtre Paul avait les mêmes problèmes que toi et moi. Qui savait qu'il ne fallait pas se mettre en colère, qui savait qu'il ne fallait pas regarder le conjoint de l'autre, qui savait que la jalousie était mauvaise, qui savait que c'était idiot de brûler une cigarette, qui savait... Et... Alors, comment fait le Saint-Esprit pour que ton moins ne fonce pas vers le plus du diable? Trouvez-moi une solution. Tous ceux qui ont fait de la physique un jour dans leur vie, vous devez trouver une solution. Moi, j'avais un bon prof. Vous avez fait de la techno en quatrième, je ne sais pas si ça existe encore, ça. Cours de techno en quatrième. Et là, tout d'un coup, le prof nous a dit, pour dévier un moins qui va vers un plus, comment vous faites? C'est pas une interrogation écrite, je vous assure. Comment vous faites? Mais c'est les mêmes règles spirituelles, c'est les mêmes règles spirituelles. Il y a deux possibilités. J'en vois pas trois, j'en vois que deux. Vous amenez quelque chose comme une bille, mais moins, que vous glissez entre les deux billes. Ouh, ça devient très très compliqué, restez avec moi ce matin. Lorsque vous mettez un moins vers un moins, il se repousse. Donc si j'arrive à glisser, si le Saint-Esprit arrive avant que tu fonces, bêtement vers la tentation, si le Saint-Esprit arrive à te dire eh, « c'est pas du plus, méfie-toi, c'est du moins, c'est du moins. Fais pas ça, tu vas exploser ton mariage. Regarde pas cette image de porno, tu vas culpabiliser dans 5 minutes. Te mets pas en colère, tu vas devoir demander pardon derrière. Fais pas ceci, ça plaît pas à Dieu. » Vous voyez, c'est cette crainte de Dieu qui nous sauve des fois parce que Dieu... on voit vite une bille, une boule qui fait du moins là, et qui te dit. C'est ce que vous faites aussi. Tous les légalistes devraient dire amen à ça. Vous savez, quand vous êtes au début de votre vie chrétienne, qu'est-ce que vous avez besoin des moins et combien les moins m'ont sauvé dans ma vie? Lorsque le Saint-Esprit me disait, Yvan, si tu commences là à flirter avec une fille, t'es mal barré pour le reste de ta vie. Fais pas ça. Ok, chef, j'y vais pas. Yvan, qu'aucun propos grossier ne sorte de ta bouche. Ok, je fais le tri. Yvan, essaye de ne pas faire ceci, pas faire cela. Te mets pas en colère. Apprends à gérer ta colère dès maintenant. La Bible dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de vol. Tu ne... Tout. T'as plein de lois. Ok. Mais à la fin, tu vis plus, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Si votre seule façon de lutter contre la tentation, c'est de mettre des... C'est de dire, non, mais c'est pas un plus, c'est un moins, c'est un moins, c'est un moins. Vous êtes un musulman. C'est bien, il y a des bonnes choses. D'ailleurs, les juifs, c'était pareil. Et l'Éternel dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, et tu vas faire des commandements de partout pour te sécuriser. À la fin, t'es dans quoi? T'es dans une prison. T'es dans une prison religieuse, t'es dans une prison pour Dieu. Mais écoute, effectivement, si tu veux être sûr de ne pas te commettre d'adultère, eh ben, tu te mets tout seul dans une cellule, hein, tu n'auras pas de tentation. T'as des murs partout, t'es protégé. Mais des fois, c'est utile, hein. T'as un problème avec la pornographie, des fois, enlever ta télé, ça va t'aider, hein. T'enlèves ton abonnement Internet, ça va résoudre des problèmes. Le moins est utile. Et je veux pas dire que le moins ne l'est pas. Le moins, le fait de dire faux pas, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Sauf que le prof, il m'a dit quelque chose d'autre. Il m'a dit qu'il y avait une autre façon de résister. C'est quoi? Mettre un moins, d'accord? Il faut que vous visualisiez dans votre tête un instant parce que je n'ai pas le PowerPoint qui correspond. Vous mettez votre bille avec vos besoins, un grand moins, qui est en train de rouler et qui est en train d'être aspiré vers le plus que le diable est en train d'essayer de te vendre. Si jamais la loi ne t'arrête pas, parce que des fois la loi ça ne vous arrête pas, hein. Vous savez qu'il ne faut pas griller le rouge, vous le grillez quand même parce que vous êtes en retard. Donc tous vos principes, il y a un moment où « Ah, il y en a marre, c'est rabat-joie de chrétien, c'est qu'une vie, il y en a une culpabilité, il y en a marre. » Vous le faites aussi? Ah d'accord. Ça ne me rassure pas, mais c'est honnête. Donc des fois, le moins, c'est pour ça que votre ami, vous avez beau lui dire à votre collègue de travail, « Tes enfants vont pleurer. Ton mari va pleurer. Tu vas gâcher ta vie, mais il y va quand même. » Il faut quelque chose d'autre. Quand tu es dans le tourbillon de la tentation, des fois les moins ne servent plus à rien. Écoute bien ça, enfant de Dieu, je parle à quelqu'un ce matin, je ne sais pas à qui, mais si c'est pour toi que Dieu donne cette parole, il faut que tu comprennes. Toutes tes lois t'aident. Mais l'apôtre Paul avait mis toutes ses lois, il n'arrivait pas à s'en sortir. Le prof m'a dit, il faut mettre un plus grand plus. Il amenait, vous voyez, si c'était une petite bille, il amenait un boulet. Un grand boulet avec un pouvoir encore plus. Et la petite bille qui allait flirter avec le petit plus, tout d'un coup elle s'est dit, oh, j'ai un grand plus. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Donc vous fonctionnez à la fois avec la crainte de Dieu et avec la grâce de Dieu. L'amour de Dieu vous attire. Est-ce que vous entendez ce que je dis ce matin? Il y a un moment où rien ne vaudra un temps d'adoration avec Dieu pour ne pas faire de bêtises. Rien ne vaudra un temps de communion avec Dieu, juste nourrir de l'amour de Dieu, de savoir, Dieu, tu m'aimes, je ne mérite pas, c'est extraordinaire. Dieu, je veux manger ta grâce, je veux vivre dans ta proximité, je veux vivre un temps avec toi. C'est pour ça que le dimanche matin, en général, vous ne péchez pas. Pourquoi vous ne péchez pas de 11h à midi? Parce que vous êtes saturé de la présence de Dieu. Et que finalement, toutes vos tentations de la semaine, là, elles ne sont pas attirantes. Pourquoi vous n'êtes pas attiré par vos tentations de la semaine? Pourquoi personne n'a pensé à ouvrir une bouteille de vin depuis déjà 30 minutes? Je sais qu'il y a certains qui ont des problèmes avec l'alcool ici. Pourquoi ceux qui fument et pour qui c'est une tentation terrible n'y ont pas pensé depuis quelques minutes? Ou du moins ne sont pas attirés par ça? Pourquoi? Parce que vous êtes dans la présence de Dieu, mes amis.
et vous êtes à l'heure actuelle juste les bénéficiaires, vous êtes en train de recevoir de l'amour de Dieu. Donc du coup, vous n'êtes pas attiré par le plus que le diable essaye de vous vendre. Vous me permettez de conclure sur le texte de Matthieu 4. Je vais vérifier que vous avez compris. Après, je partirai, je m'enfuirai loin de ce lieu, mais je veux juste qu'on puisse vérifier que vous avez compris ce que Dieu voulait vous dire ce matin. Dans Matthieu 4, on prend le texte une dernière fois, le texte de la tentation. Mais au lieu de regarder comme on avait fait tout à l'heure, à quelles sont les cartes du diable, on va regarder les réponses de Jésus. Ouf, c'est bon là. C'est bon. Si tu comprends là ce qui arrive, regarde le 4. Le tentateur s'approcha, c'est le verset 3. Le tentateur s'approcha et dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. J'ai du pain pour toi, Jésus. J'ai un plus. Mais Jésus répondit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Et Jésus répond, même si tu me proposes un petit plus, c'est vrai, j'ai envie de pain. Vous croyez que Jésus a envie de pain à ce moment-là? Oui, il a envie de pain. Sauf que Jésus dit, ouais, mais j'ai une autre chose dont j'ai envie d'une parole de Dieu. Et donc la parole de Dieu m'attire encore plus que ce que tu veux me vendre. Tu m'apportes un petit plus, mais moi avec Dieu j'ai un grand plus. Et ça me sauve. Et ce qui te sauve, c'est que tout d'un coup Dieu te fait ouvrir les yeux pour te dire, mais ma fille, t'as besoin de quoi? J'ai tout ce que tu as besoin chez moi. Tout d'un coup tu dis, ah, mais Dieu c'est vrai en fait. Et là t'as plus de pensée d'adultère. Et là, la colère tu la gères beaucoup mieux parce que tu dis, ouais Dieu c'est vrai, tu as dit que c'est le problème. Même si j'ai envie de me venger, même si je mérite d'avoir justice, même si ce qu'elle m'a fait c'est horrible, je vais avoir la capacité d'aimer. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, tu es rempli de l'amour de Dieu. Et tu vois cette personne, non pas comme tu la voyais avant, mais tout d'un coup, tu vois juste une bulle d'amour de Dieu autour. Je cours vers Dieu. Je cours vers le plus de Dieu. Je suis capable d'aimer des gens pas aimables. Parce que j'ai du plus de Dieu et je suis nourri par l'amour de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit à Satan. Il dit, Satan, c'est vrai que tu me proposes un plus, mais en Dieu, j'ai un grand plus. Et je préfère aller vers le plus grand plus. Alors, essayez de le faire tout seul, le verset d'après. Alors, le diable transporta dans la cité sainte, le plaça en haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. Et Jésus lui dit, alors c'est là qu'il faut appliquer. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Là, il ne faut pas jouer. Et là, c'est la crainte de Dieu qui va te sauver. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a dans certains cas où c'est la loi de Dieu, c'est les principes de Dieu qui te sauveront. Là, Jésus aurait pu dire, ah, mais ça correspond à un besoin. Je suis en haut sur le temple. C'est une reconnaissance, ça va me faire du bien, c'est vrai. Et là, non, les conséquences derrière, je vais détruire ma relation avec Dieu, ça ne vaut pas le coup. C'est le fameux moins qui se met au milieu. C'est comme si, à ce moment-là, le Saint-Esprit agit pour dire « Feu rouge, tu ne forceras pas la main de Dieu. » Il y a un grand, grand moins derrière. Pour 5 minutes de plaisir, tu vas pleurer pendant 10 jours. Arrête! Le verset 4, c'était un grand plus pour éviter de tomber. Le verset 5, c'est un moins. Le verset 7, c'est un moins pour ne pas tomber. Et conclusion, le verset 8, le diable transporta sur une très haute montagne, il lui monta tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan. Car il est écrit, quoi? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que j'ai dit là-dedans? Allez, je me mets avec vous. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, premier aspect. Deuxième aspect, c'est à lui seul que tu rendras un culte. Je pense que cette tentation doit être la plus dure pour Jésus. Parce que Jésus a dû sortir les deux. Les deux. Il a dit le premier, j'ai envie d'adorer Dieu. Il est écrit, rien ne vaut l'adoration de Dieu. Plus, je préfère adorer Dieu que toi. J'ai quelque chose qui me donne plus envie d'adorer que toi. Le diable est en train de demander de l'adoration à Jésus. Non. Je connais quelqu'un, j'ai le téléphone, j'ai le 06 de Dieu et ça vaut mieux que toi. Alors je vais courir vers Dieu. Mais seulement Jésus dit, et deuxièmement, c'est à lui seul que tu rendras un culte. Et de toute façon, je sais qu'il y a un moins si je vais vers toi. Donc je te donne deux raisons pour lesquelles je n'irai pas. Premièrement, parce que Dieu est plus que toi. Et deuxièmement, ça serait un terrible moins pour ma vie d'aller vers toi. Là-dessus, verset français très courant, le verset 11, le diable lâcha l'affaire. Il dit, ok, c'est bon, je viens de me prendre deux coups d'un coup, j'arrête. Il y a un moment où le diable, quand il sait que tu es équilibré entre la crainte de Dieu et l'amour de Dieu, il est KO. Il est KO. Il est KO. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ça dans sa vie ce matin? Il y en a vous avez un réflexe, naturellement, on privilégie quelque chose. Moi, pendant des années, j'ai privilégié le moins pour me sortir de situation. J'ai dit, oh, faut pas. Mais il y a un moment où ta vie, elle n'a plus assez de palpitant et tu ne tiendras pas. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, quelqu'un d'autre viendra remplir tes besoins. Puis peut-être quelqu'un dans cette salle a le problème inverse. Il aime Dieu, il est plein d'amour pour Dieu, mais alors, il ne comprend pas qu'il détruit sa vie à chaque fois, quoi. Vous savez que vous devez marcher de progrès en progrès. On va fermer les yeux ensemble. Oh, ce matin, je voudrais que la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse, descende dans ton cœur et que la grâce de Dieu qui a sauvé l'apôtre Paul, alors qu'avec ses moins, il ne s'en sortait pas. L'apôtre Paul a crié dans le 8e chapitre du livre des Romains. Il a dit, mais qui me délivrera, à la fin du chapitre 7, de ce corps voué à la mort, je suis attiré par le plus du diable, alors que je sais que c'est un mauvais plus, et tous mes moins ne m'en sortent pas. Et puis il dit, mais grâce soit rendue à Jésus-Christ, mon Seigneur, car je sais que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les hauteurs, ni rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai un plus au ciel. Je crois qu'il y a à la croix un plus pour ma vie. La majesté de Dieu, son amour est là dans cette place. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut se lever maintenant ? Pour dire, Dieu, tu es le plus grand de tous les dieux. Mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse. En Jésus-Christ, il a tous les plus dont j'ai besoin. Je me lève pour toi, Jésus. Je ne veux pas rentrer dans ce piège du diable qui me dit, insatisfait, tu es insatisfait. Dieu peut-il vraiment? Regarde. Oh non, ce matin, je crie à Dieu, la grâce de Dieu. Si vous voulez prendre la Sainte-Seine, je vous demande de vous lever maintenant. Levez-vous si vous voulez prendre la Sainte-Seine. Les personnes désignées vont commencer à distribuer tout de suite la Sainte-Seine. Et vous la gardez dans vos mains. Il y a un chant qui dit « Me voici ». Tel que je suis devant toi, comblé par ta grâce. Je voudrais que toutes les personnes qui ont à cœur de suivre Jésus dans les moments faciles, les moments difficiles, vous preniez un morceau de pain et vous prenez fruit de la vigne, symbole de ce que Jésus a fait à la croix. Je peux vous dire, vous avez deux plus dans les mains. Un double plus.
le corps de Jésus brisé à la croix. C'est pour te donner la vie. Le sang de Jésus qui a coulé de la croix, c'est pour t'effacer tous tes péchés, tous tes moins. Je bénis Dieu parce qu'il est suffisant. La crainte de l'Éternel et la grâce de Dieu sont suffisants pour que tu résistes à n'importe quelle tentation, que ce soit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux ou l'orgueil de la vie. Tout est accompli. À genoux devant Dieu, debout mais à genoux dans notre cœur. Est-ce qu'on peut prendre ensemble le pain et le vin? Prenons-le maintenant. Alléluia. Alléluia. Il est brisé pour accomplir la loi de Dieu. Il se donne pour accomplir la grâce de Dieu. Il est entièrement équilibré pour ma vie. Alléluia, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre comme un murmure? Majesté. De nous, Seigneur. Alléluia, Jésus, merci pour ton aide.
Qu'avons-nous à te donner, Seigneur? Car tu as tout donné. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta gloire. Tu as hypothéqué ta gloire à cause de nous.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. On va donner la gloire à Dieu. Oh. Est-ce qu'on peut dire, oh, prends nos âmes, Seigneur, prends-la, Seigneur. Je crois qu'il y a beaucoup qui ont besoin de le dire au Seigneur. Je veux parler à vous qui êtes au fond, là, il y a quelque chose à donner au Seigneur. On peut terminer avec ce cœur qui dit, oh, prends mon âme, Seigneur, prends-la, Seigneur. Ouh.
Seul d'un, tu perfide. Oh, garde-moi. Viens, sois mon guide. Jette ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile. Yeah.